France Musique.
Flora Tristan, un esprit féminin, un esprit parfaitement libre. Flora Tristan naît à Paris le 7 avril 1803 d'une mère française et d'un père péruvien. Don Mariano Tristan y Moscovo appartient à une famille prospère et puissante. Lorsqu'il meurt, Flora n'a que 5 ans et le mariage de ses parents n'ayant été reconnu, elle est alors considérée comme une bâtarde. Elle vit dès lors une enfance dans la misère auprès de sa mère qui se débat avec d'insurmontables difficultés financières. Sans fortune ni éducation, elle entre au service du graveur en taille douce, André Chazal, en tant qu'ouvrière coloriste. À 17 ans, elle épouse sans amour cet homme médiocre, jaloux, violent et humiliant. Rappelons que le code civil transforme toutes les épouses en mineures juridiques soumises à l'obéissance de leur mari, voire à leur coût autorisé. Dans une certaine limite, faut-il préciser. L'échec du mariage est total. Femme battue, humiliée, séquestrée, elle réussit pourtant à fuir le domicile conjugal en 1825, bien qu'enceinte de la dernière de ses 3 enfants. Le divorce autorisé sous la Révolution française a été interdit en 1816. Elle n'obtient donc que la séparation de biens et celle de corps, 10 ans plus tard. Flora Tristan refuse son destin d'opprimée. Après 2 voyages en Angleterre, elle décide de partir au Pérou, laissant derrière elle ses enfants. Elle veut obtenir la part de l'héritage paternel resté aux mains de son oncle, Don Pio de Tristan. Elle part pour un périple de près de 6 mois. Le 7 avril 1833, Flora Tristan embarque à Bordeaux sur un bateau à vapeur. Le navire fait escale au Cap-Vert, franchit le Cap Horn, s'arrête à Valparaiso au Chili pour accoster enfin à Islay au Pérou. De là, elle franchit le désert à cheval pour arriver enfin dans la cité d'Arequipa. La cité compte à l'époque environ 30 000 habitants et est composée de près d'un quart de blanc, un quart de nègre ou métis et moitié indien, écrit-elle dans ses pérégrinations qu'elle publie en 1838. Grâce à la parenté de son puissant oncle et la réputation des Parisiennes, Flora Tristan est partout, ou presque, accueillie par l'aristocratie locale toute puissante qui tient les rênes de cette jeune et fantoche république péruvienne. Elle est en effet témoin des premières années de l'indépendance. Le Pérou vient tout juste de se libérer du joug espagnol. 2 années de lutte féroce entre les libéraux et les conservateurs, dont la ville d'Arequipa où elle réside est le théâtre principal. Flora Tristan va dès lors observer les personnalités qu'elle rencontre sous un regard critique, pointant sans relâche leur médiocrité, leur compromission, leur cruauté. Les militaires, les religieux, les politiciens sont les premières victimes de ces descriptions acides. Ainsi le portrait d'un évêque avare et corrompu qui vole aux pauvres leur aumône. Elle visite les plantations de canne à sucre et dénonce avec la plus grande virulence l'esclavage encore en vigueur. Celle qui va devenir une icône de la lutte ouvrière et du socialisme naissant, précédant Marx dans son appel à l'union des travailleurs du monde entier, s'insurge contre les propriétaires terriens qui s'accaparent les richesses. Mais ce qui la distingue le plus de ses contemporains est son combat féministe, mot qui n'existe pas encore. Suivant les traces de la révolutionnaire Olympe de Gouges, elle montre combien la femme, pourtant bien supérieure aux hommes, selon ses mots, est méprisée, bafouée, violentée. Flora Tristan pénètre dans les couvents d'Arequipa, qui, loin d'être des havres de sainteté, se révèlent être des lieux de péché et de luxe, de fanatisme et d'oppression, où derrière l'apparente égalité de la soutane, règnent, dit-elle, dans toute leur puissance, les hiérarchies de la naissance, des titres, des couleurs de la peau et des fortunes. Elle découvre aussi les femmes de Lima, vêtues de saya, voilées des pieds à la tête et qui peuvent, dit-elle, circuler incognito et donc aimer en toute liberté. Mais aussi les ravanas, ces femmes indiennes qui font volontairement office de cantinières et bravent 1000 dangers pour nourrir, vêtir, laver et loger les soldats. En observant le courage de ces femmes à braver les dangers dont sont incapables les hommes de leur race, Flora Tristan pose alors la question fondamentale de l'éducation. De son voyage au Pérou, entre 1833 et 1834, Flora Tristan rédige « Pérégrination d'une paria ». Paru en 1838, ce premier récit de voyage, chronique du Pérou, essai politique ou encore mémoire autobiographique, est aussi une bombe littéraire, provocatrice, radicale, qui crée un immense scandale de Paris à Lima. Le livre est brûlé en place publique à Arequipa et vaut à Flora Tristan de recevoir deux balles de pistolet de celui qui reste encore son mari. L'une d'elles lui perfore le poumon et reste logée près du cœur. Flora ne cesse pas pour autant ses activités. Elle harangue passionnément les ouvrières et les ouvriers et lutte pour le droit au divorce. Celle qui se qualifie de paria fait preuve d'un courage exceptionnel et en 1839 effectue son troisième séjour en Angleterre où elle mène ce que l'on peut appeler une enquête sociale et politique sur les effets délétères du monde industriel. Les idées réformatrices de Flora Tristan, que l'on retrouve dans les promenades dans Londres, sont peu courantes. Elle est alors influencée par les grands écrivains politiques de son siècle, en particulier Claude-Henri de Saint-Simon, Robert Owen et Charles Fournier. Elle ne répond toutefois d'aucun des trois et désapprouve la société bourgeoise de Louis-Philippe fondée sur l'argent et l'intérêt. Flora Tristan, comme plus tard Simone Veil, se sent coupable de l'exploitation ouvrière. Elle a le remords du luxe et pour cela, la haine du bourgeois. Elle adhère à la doctrine socialiste qui doit passer, selon elle, par les conquêtes du féminisme. Les promenades dans Londres sont l'œuvre d'une socialiste féministe, mais aussi du premier grand reporter féminin. Son but n'est pas de décrire les monuments, les parcs et les musées, mais de montrer que la société londonienne est tout en contraste, voire en injustice. D'un côté, les puissants, la classe dirigeante issue de la noblesse et de la grande bourgeoisie, soucieuse de faire croire que l'existence d'un parlement garantit la liberté des Britanniques. De l'autre, se trouvent les opprimés, les femmes, soumises aux hommes en général, à leurs maris en particulier, et les ouvriers, femmes et hommes. Avec toute son audace, Flora Tristan sillonne les quartiers, s'aventure dans les faubourgs de Londres, s'introduit déguisée en homme dans le Parlement de Westminster, alors interdit aux femmes. Elle dresse un réquisitoire contre cette société ébranlée par l'industrialisation. Elle veut briser un mythe, celui d'une Angleterre, pays de la liberté. De retour en France, Flora Tristan se consacre dorénavant à répandre ses idées de socialisme humanitaire et s'embarque en 1843 pour un tour de France à la rencontre des femmes et des hommes ouvriers. Il s'agit de sonder le niveau intellectuel et politique des ouvriers en vue de constituer la classe ouvrière. Dans l'Union ouvrière, rédigée en 1843, elle appelle les ouvriers à unir leurs forces et à s'organiser pour revendiquer leurs droits à un salaire équitable, au travail, à l'instruction et à une couverture sociale juste face aux abus des patrons. Et c'est aux femmes qu'elle apporte une place particulière, car au-delà de leurs conditions, elle est aussi très attentive aux rapports de sexe dans le ménage et dans la cité, au pouvoir des femmes et à leur culture politique. Enfin, ne faudrait-il pas renverser le rituel de la déclaration d'amour ? Aussi codé que le plus royal des cérémoniales de cour, Flora Tristan n'avait guère de chance d'être entendue. Mais elle ne peut achever son voyage. Elle meurt de la fièvre typhoïde à l'âge de 41 ans. Jamais nous ne pourrons, nous ne devrons oublier qu'elle fut la première à donner à son appel à l'Union des travailleurs une portée universelle. En admettant dans l'Union ouvrière tous les prolétaires, sans distinction de nationalité ni de sexe. Tout en défendant l'Union ouvrière, Marx et Engels ont observé à l'égard de la paria un bien étrange silence. Mais la phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » est bien de Flora Tristan.
À réécouter sur francemusique.fr.